L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. Le parcours professionnel d'une ou d'un cadre scolaire, c'est rarement linéaire. Et c'est ce qui fait la richesse d'une carrière en gestion, dans le réseau de l'éducation notamment. Les défis sont nombreux, stimulants, mais parfois, ils peuvent aussi composer une lourde charge, je vous dirais. Vous en connaissez, vous en faites peut-être partie de ces cadres qui cumulent les responsabilités, les mandats de plus en plus difficilement. À ces défis professionnels, parfois vient s'ajouter d'autres écueils, des difficultés personnelles qui peuvent nous essouffler, nous contrecarrer dans nos plans. On voudrait continuer d'être un gestionnaire efficace, crédible pour nos équipes, mais on perd pied ou on a l'impression de le perdre. Comment faire pour garder l'équilibre malgré les difficultés professionnelles et personnelles? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui dans ce balado.
Parce que des fois, quand on a des difficultés personnelles, on n'est pas juste triste, là. Des fois, on est irritable, puis ça ne nous en pas gros. Et que là, on va nuire à nos relations interpersonnelles, bien là, il faut réaménager quelque chose. Puis, mais aussi d'avoir, si on est là longtemps avec quelque chose qui perdure, il faut vraiment avoir quelqu'un qui nous aide aussi à prendre les bonnes décisions par rapport au travail.
Le thème de l'efficacité au travail est souvent abordé sous l'angle de l'agilité, de la créativité, de la mobilisation. On l'entend souvent. La QCS vous propose régulièrement des formations de gestion qui vont en ce sens. Aujourd'hui, on en parle sous un aspect inédit, plus sensible, qui fait appel aux qualités humaines, à l'introspection. C'est une invitation qu'on vous lance aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi des invités extraordinaires, à commencer par Mme Rose-Marie Charest, qui est psychologue, conférencière, qui intervient souvent dans la sphère publique, que plusieurs membres à QCS ont eu la chance d'entendre. Vous avez vous-même occupé, Mme Charest, des fonctions de gestion dans votre carrière qui vous permettent de bien cerner les enjeux de nos auditeurs et auditrices cadres scolaires aujourd'hui. Bonjour, Mme Charest.
Bonjour.
Bien heureuse que vous soyez avec nous. On sera accompagné aujourd'hui de Mme Julie Martineau, qui est coordonnatrice des services de l'enseignement et du transport scolaire au Centre de services scolaires des Hauts-Cantons. Bonjour, Julie.
Bonjour, Taïna.
Merci d'être là. Et M. Hugues Gauthier, qui est directeur adjoint, Centre de formation professionnelle Qualitech, Centre de services scolaires Chemin du Roi. Bonjour, Hugues.
Bonjour tout le monde.
Alors, bien heureuse que vous soyez avec nous. Si vous me le permettez, j'aimerais d'abord dire à nos auditeurs que Mme Charest nous a permis d'élargir le contexte de ce balado. On voulait, entre autres, aborder le thème des épreuves personnelles dans la vie d'un gestionnaire, mais Mme Charest nous a conseillé d'utiliser le terme « difficulté personnelle ». Pourquoi cette nuance? Qu'est-ce que vous vouliez apporter?
Je voulais apporter la différence entre une épreuve, quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, et une difficulté qu'on peut quand même vivre, qui peut être difficile, même si on n'a pas eu de maladie, d'accident, d'incendie, ou toute chose qui pourrait venir, tout événement comme ça, qu'on appelle une épreuve. Donc, pour mieux préparer les gestionnaires à ce qui est la vraie vie. Et dans la vraie vie, oui, il y a des épreuves, mais il y a aussi des difficultés personnelles.
Hugues et Julie, pourquoi vous avez accepté l'invitation? Qu'est-ce que ça résonnait en vous? Parce que, bon, un cadre scolaire, vous le vivez au quotidien, c'est votre fonction. Est-ce que vous vous accordez ce droit de vivre des difficultés, certaines épreuves?
Bien, je vais y aller d'abord, absolument. Moi, je me dis, comme Mme Charest nommait d'emblée, il n'y a personne hein, qui est à l'abri de vivre des enjeux personnels. Des fois, on vit avec les aléas, puis à certains moments, ça peut être plus facile que d'autres pour un même événement. Puis je me dis, bien, on est tous confrontés à ça un jour ou l'autre. Ça fait partie de ce qu'on est. On est humain. Puis moi, personnellement, pourquoi ce balado m'interpellait? Bien, la quête de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, pour moi, c'est toujours bien important. Puis dans le cadre de mon travail, je suis quelqu'un qui foncièrement, tu sais, dans la bienveillance, dans le soutien là, auprès des collègues, employés, tout ça. Donc, je me dis bien aussi comment on peut prendre soin de nous-mêmes là-dedans quand on est gestionnaire et qu'on vit des difficultés.
Je suis arrivé en poste comme gestionnaire et j'ai eu à vivre des difficultés personnelles ce qui a fait la différence, c'est vraiment l'équipe qui était en place. Ça m'a permis de conserver mon poste et de rester à l'emploi. Et quand on m'a mentionné le sujet de ce balado-là, ça m'a permis de voir comment j'avais passé à travers, puis de pouvoir peut-être faire la différence dans la vie de quelqu'un, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de nouveaux gestionnaires qui arrivent en poste. Je sais que...
Il y a un bon roulement.
Il y a un bon roulement. Donc, je voulais pouvoir faire la différence, puis peut-être aider les gens qui arrivent en poste.
Ah, c'est bon ça. On donne au suivant. Maintenant, lorsqu'on vit une difficulté qui atteint notre sentiment d'efficacité, quelle stratégie on peut mettre en place? Comment on fait en sorte qu'on maintient notre posture de gestionnaire malgré les fluctuations de la vie personnelle, de la vie professionnelle?
Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir bien. Donc, à un moment donné où on sent qu'on a moins ce sentiment d'efficacité, soit on fait des erreurs qu'on ne faisait pas avant, soit ça nous prend plus de temps pour faire la même chose, soit on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de dire, bon, là, il se passe quelque chose. Je ne ferai pas comme s'il ne se passait rien. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans moi, dans ma vie personnelle? Qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que des fois, les stress, ils sont aussi au travail. Ce n'est pas toute notre vie personnelle qui va entraîner du stress, qui va faire baisser notre efficacité. Ça peut être aussi une difficulté relationnelle, par exemple, au travail, qui prend tellement de place que finalement, on n'est pas concentré sur notre tâche, on est concentré sur cette difficulté-là. Bon, dans tous les cas, être capable d'identifier c'est quoi la difficulté. Mais surtout, redéfinir ce qu'on entend par efficacité personnelle. Quels sont les plans qu'on se fait, les objectifs qu'on se donne, les mandats qu'on se donne et les revoir en fonction de ce qui est réaliste? Parce que le stress, on ne peut pas y échapper, mais il y a du stress positif et du stress négatif. Et le stress positif, c'est le sentiment justement que nos tensions, notre fatigue mènent à des résultats. Bien, pour que ça mène à des résultats, il faut qu'on ait identifié à l'avance, ça va être quoi un résultat? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réaliser? Bien, il faut, des fois, il y a des périodes de notre vie où on doit simplement réorganiser nos objectifs, pas pour toujours, pas pour toute la vie, mais pour ce moment-là.
Ah, c'est intéressant. Hugues, Julie, de votre côté, c'est important d'être bien entouré pour faire face, passer à travers les difficultés de la vie.
Effectivement, c'est ce qui a fait la différence dans mon cas. On est une petite équipe à Qualitech, on était 3 gestionnaires et on pouvait compter un sur l'autre. Et c'était facile pour moi de faire appel à un collègue s'il y avait une situation, est-ce que j'avais besoin d'un peu de temps ou il y avait des choses à régler à l'externe. Là, parce qu'il y a des difficultés personnelles qui peuvent nous demander aussi d'être disponibles dans le jour pour régler certaines choses, prendre des décisions et d'avoir des collègues qui peuvent venir prendre la place pour un certain temps. Madame Charest mentionnait qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en place, puis effectivement, des petits temps d'arrêt dans l'horaire qui nous permet justement de prendre notre souffle. Donc, arranger notre horaire différemment peut faire la différence aussi. Là.
De votre côté, Julie?
Bien, moi, j'aurais envie de dire, moi, ça me rappelle quand je suis arrivée comme gestionnaire, j'avais beaucoup de nouveautés d'apprentissage à acquérir. Puis de ne pas hésiter à faire appel à son réseau. Si ce n'est pas sa garde rapprochée immédiate, c'est d'aller faire appel à d'autres collègues qui peuvent faire sensiblement la même tâche que nous puis qui peuvent nous aider. T'sais, ces dernières années, on a eu à faire face dans le monde du transport à des nouveaux défis pour lesquels on n'avait pas nécessairement de solution seul dans nos bureaux. Puis d'avoir fait appel à l'intelligence collective, à l'entraide, moi, à mon sens, à moi, ça a été porteur pour justement faire face à certaines difficultés parce qu'on avait des nouveaux stress auxquels on était confrontés. Puis souvent, bien, dans la nouveauté, c'est contributeur du stress, mais de pouvoir plus réfléchir collectivement avec d'autres collègues, de se serrer les coudes, ça a fait en sorte, je pense, qu'on a pu mieux surmonter là, ces difficultés-là.
Quand on partage avec des collègues, est-ce que c'est ouvrir notre cœur? Est-ce qu'on doit parler de la difficulté qu'on vit ou plus de la stratégie pour essayer de combattre cette difficulté sans que tout le monde soit nécessairement au courant?
Écoutez, il ne faut pas tout dire. On n'a pas besoin de confier notre âme et toute notre histoire et tout ça. On a besoin d'être en communication avec les gens pour leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils comprennent ce qui se passe. On n'est pas obligé de leur dire c'est quoi la difficulté que je traverse, mais d'informer surtout deux sortes de personnes, ceux qui peuvent nous aider et ceux qui comptent sur nous. Et je dirais que la meilleure préparation, et ça a été dit tout à l'heure par Julie et Hugues, c'est comment on peut entretenir de bons liens avec nos collègues pour ensuite pouvoir compter sur eux autres à ce moment-là. Parce que si on n'a pas déjà des bonnes relations avec ces gens-là, s'ils ne sont pas déjà informés de ce qu'on fait, si on n'est pas informé de ce qu'ils font, ce sera moins spontané d'aller prendre appui sur eux pendant qu'on rencontre une difficulté. Et il y a des gens avec qui dont on est plus proche, avec qui on va s'ouvrir davantage. Mais les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Ils ont besoin de savoir où ils peuvent nous aider en ce moment. Puis plus on va leur dire concrètement là où ils peuvent nous aider, plus ça va fonctionner et plus on va se sentir dégagé.
Mais est-ce qu'on peut se donner le droit d'être fragile quand on est un cadre? Souvent, on a l'impression qu'il faut être fort, qu'il faut maintenir l'énergie, la bonne ambiance, la structure dans une organisation. À quel point on doit démontrer cette réalité-là ou laisser de côté certaines émotions?
Ben moi, je pense qu'on n'a pas à laisser de côté les émotions. Je pense qu'on peut être soi-même. Ça ne veut pas dire, comme je le mentionnais tout à l'heure, qu'on va raconter notre vie à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas nous-mêmes gérer certaines émotions. Parce que ce qu'il faut faire avec les émotions, là, c'est d'abord les nommer, savoir qu'est-ce que je vis au juste, puis ensuite choisir ce qu'on en fait. Choisir à qui on va en parler, et moi je suggère de toujours avoir quelqu'un dans notre vie à qui on peut parler des choses plus difficiles, puis c'est pas obligé d'être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un dans notre vie, à la limite un professionnel, mais quelqu'un à qui on en parle, et être capable ensuite de créer un lien comme leader. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Et pour être inspiré par quelqu'un, il faut qu'on se reconnaisse un peu en lui. Or, les autres là, qu'on gère, là, ces gens-là, ils en ont des émotions. Fait que pour qu'ils puissent se reconnaître en nous, il faut qu'ils sachent qu'on en est. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va perdre le contrôle, mais qu'on en a. Puis moi, je dirais que même au quotidien, pas attendre que ce soit nécessairement des grandes crises, mais se laisser connaître. Dire « Ah, ça, j'aime ça » ou « Ça, c'est plus difficile pour moi, je vais le faire pareil, mais ça, c'est plus… » Pour que les gens sachent qu'on est un leader, mais justement, on est un humain puis qu'on n'aime pas tout de la même manière puis tout n'est pas exigeant de la même manière non plus.
Julie et Hugues, est-ce que vous avez déjà démontré votre vulnérabilité?
Si je peux me permettre d'y aller, c'est certain qu'à mes débuts comme gestionnaire, j'avais l'impression, une fausse impression que je devais avoir une... Je vais utiliser le terme façade, et c'est quelque chose qui, selon moi, est en veine parce que les gens voient que t'es pas pareil comme d'habitude devant l'équipe, qu'il y a des petites choses, que des rendez-vous échappés ou il y a des choses qui ne vont pas. Donc, même si le discours essaie d'être rassurant, si on ne vient pas dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a une situation sans tout dévoiler, comme disait Mme Charest, là, je trouve ça très intéressant, mais plus j'ai avancé en année d'expérience comme gestionnaire, plus je me suis senti à l'aise et ça a créé des liens avec les équipes qui sont d'autant plus intéressants, qui permettent justement à des gens de venir nous partager certaines choses qu'ils vivent puis qu'on peut mettre des choses en place pour les aider aussi. Donc, oui, effectivement, je calcule que c'est très important de se permettre d'être vulnérable.
Julie, quelque chose à ajouter?
Bien, en fait, moi, je l'ai été aussi récemment que la semaine dernière devant une équipe parce qu'on a un changement qui survient dans l'équipe, puis je suis impactée par ce changement-là, puis ben j'étais loin d'être insensible à la réaction émotive des collègues à qui on apprenait la nouvelle. Puis, tu sais, moi, d'emblée, ben, j'ai choisi de ne pas, la cacher, cette émotion-là, cette tristesse-là. Puis en fait, j'ai même nommé ceux qui semblaient vouloir refouler. Je l'ai dit, ben, c'est légitime d'avoir de la peine. On vit un deuil, on va devoir s'adapter au changement, puis on va le vivre ensemble, on va s'épauler. Fait que je pense que ça l'a donné cette légitimité-là. Moi, je pense que l'authenticité, c'est une clé. Je pense qu'on nous regarde aller, hein, comme gestionnaire. On est des modèles. Madame Charest, vous nommiez, on inspire les gens. C'est ça, le leadership. Puis on est dans un métier où on est constamment en relation avec les autres. Fait que je me dis, si on choisit d'être déconnecté de nos émotions, puis de se détacher de ça, puis d'en mettre une façade, comme tu me nommais, Hugues, à un moment donné, les gens, c'est notre crédibilité, je trouve, qui en est entachée. Là. Fait que c'est encore pour doser. On ne dévoile pas tout, mais il y a des fois, je trouve qu'il faut savoir utiliser cette intelligence émotionnelle-là pour justement mobiliser nos gens puis s'épauler auprès des gens aussi sur qui on peut compter. Moi, je pense que la collaboration, l'entraide, c'est essentiel là, dans le travail qu'on fait.
Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Si vous vivez des difficultés au travail, l'AQCS peut vous offrir un accompagnement précieux et vous représenter dans la défense de vos droits. Notre équipe répond à vos questions liées à l'interprétation, à l'application et au respect des conditions de travail, et ce, en toute confidentialité. Avec vous, nous allons trouver des solutions.
Par votre témoignage, Julie, cette anecdote, cette histoire récente, on a soutenu, on a aidé en quelque sorte des collègues qui vivaient aussi des émotions, qui peuvent s'avérer des difficultés plus grandes pour certaines personnes, moins grandes pour d'autres. Est-ce qu'il y a un danger à aider nos proches de manière, dans un contexte professionnel?
La vraie empathie, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre qu'est-ce qu'il peut vivre et revenir à sa place pour se poser la question, moi, dans mon rôle à moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là? Donc, l'exemple qui a été donné tout à l'heure par Hugues, c'est justement ça. La personne, elle a été empathique, elle a compris qu'il y avait besoin d'aide, mais elle n'a pas pris tout son problème sur ses épaules. Elle a dit, ça le soulagerait, ça, je vais faire ça pour lui. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'à partir du moment, puis d'après moi, Hugues va pouvoir le confirmer, à partir du moment où quelqu'un fait ça pour nous, nous aide un peu, on sent que cette personne-là prend soin de nous. On n'a pas besoin de plus que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugues?
Absolument. Puis c'est quelque chose qui m'a rapproché de cette personne-là et c'était des gestes simples. C'est pas si lourd que ça, rédiger un courriel, mais ça a fait toute la différence à ce moment-là.
C'est ça. Il faut faire attention toujours à la fatigue de compassion. Hein. Des fois, comme gestionnaire, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui ne fonctionne pas bien, puis vous voulez l'aider. Puis vous voulez beaucoup l'aider, puis la personne se confie beaucoup à vous, et là, vous en venez à trop en savoir sur sa vie personnelle, sur ses vulnérabilités. Puis vous n'êtes pas son thérapeute, hein, vous n'êtes pas... Fait qu'à un moment donné, sans que ce soit de la froideur, sans que ce soit de la distance, il faut quand même être capable d'encadrer à partir du rôle qu'on joue pour cette personne-là et du rôle qu'on ne peut pas jouer. Et de dire à quelqu'un, écoute, ça, je peux faire ça pour toi, mais ça, je ne peux pas faire ça pour toi. C'est orienter la personne de la bonne façon. Si elle a besoin d'aller chercher de l'aide, elle sait que là-dessus, vous ne pourrez pas l'aider. Mais que sur d'autres choses, oui, vous pouvez l'aider.
C'est votre meilleur conseil. Comme ça, on n'aura pas l'air froid. On semble sensibilisé à l'écoute de la personne, mais on met nos limites.
Oui, puis on met des limites réalistes. La réalité, c'est ça. La réalité, moi, comme gestionnaire, quand quelqu'un ne se sentait pas bien, puis je le voyais, je disais, écoute, tu peux venir me voir, puis on va réorganiser ta tâche. On va voir qu'est-ce que je peux déléguer à d'autres, qu'est-ce que je peux, moi, faire à ta place, ou ce qu'on peut, dans les priorités, qu'est-ce qu'on peut reporter à plus tard. Vous savez, comme gestionnaire, des fois, on est très créatif dans nos priorités. Des fois, on peut les réorganiser, puis qu'il y a quelque chose qui peut attendre, puis tout ça. Et la personne sentait que je l'aidais, mais je ne me mettais pas, tout psychologue que je suis, je ne me mettais pas à jouer un rôle de thérapeute avec elle, parce que sinon, là, j'étais mal prise. et elle aussi. Parce que la personne qui ne se sent pas bien, une fois qu'elle s'est trop confiée, là, elle ne se sent pas bien de s'être trop confiée non plus. Puis comment vous allez faire pour faire son évaluation par la suite? Fait qu'il faut vraiment mettre les bonnes balises, selon moi.
Pour demeurer objectif dans tout le processus aussi. Merci beaucoup pour les trucs. J'aurais aimé vous poser la question, mais vous m'avez devancé et j'adore ça. J'aime ça. Si j'ai vu des gens prendre des notes, je vois des sourires autour de la table et j'en suis persuadée qu'il y a des gens qui vont être à l'écoute et que ça va leur faire sourire parce que c'est très pratico-pratique et ça peut nous aider au quotidien. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont nés avec la résilience dans leur petit baluchon. Ça semble plus facile pour certaines personnes de faire face à certaines difficultés. Est-ce qu'il y a des habiletés, des compétences, des qualités que des gens peuvent avoir qui nous aident à traverser les difficultés?
J'ai un mot en tête quand vous parlez de ça, perfectionnisme. Si vous identifiez que vous êtes une personne perfectionniste, commencez tout de suite à travailler là-dessus avant de vous sentir mal. Parce que de toute façon, ça va finir par vous faire vous sentir mal. C'est que la réalité, c'est que la perfection est un objectif qu'on ne rencontre pas à tous les jours dans tout ce qu'on fait. Et que s'il y a des périodes de notre vie où on est plus affaibli pour une raison ou pour une autre, il va falloir baisser nos critères par rapport à notre évaluation de nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup une question d'attitude qui va nous aider. Et c'est aussi, moi, je dirais, on est inégaux à la naissance. Là. Il y a des gens, là, dès à une semaine, ils sont plus vulnérables que d'autres. Ils ont la résilience moins forte que d'autres. Et ça, là, faut accepter ça. Il y a des différences individuelles chez les êtres humains. Puis, on peut être moins fort là-dedans, puis être plus fort dans d'autres choses. Mais on peut l'augmenter, notre résilience, en prenant soin de nous tout le temps. Pas juste quand ça va mal. Quand ça va bien aussi. S'accorder du temps, par exemple, pour dans une journée, avoir toujours dans une journée un moment de détente. Pas dire « je me détendrai en fin de semaine », tu sais. Vraiment avoir, dire « si je me sentais trop stressée, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais comme outil? » Moi, je peux vous confier le mien. Quand j'étais présidente de l'Ordre, dans les grands moments de stress, là, s'il y avait une caméra dans mon bureau, ça aurait été drôle. Pour moi, la stratégie, c'était de rentrer dans mon bureau, de fermer la porte et d'enlever mes chaussures. Quand j'enlevais mes chaussures, moi, je devenais juste Rosemary. Pour mon titre, pour dire, là, c'est quoi? Puis c'est moi qui prends la décision, puis tout ça. Puis ensuite, personne n'a jamais rien vu de ça, mais moi, je savais qu'il y avait un lieu quelque part où je pouvais me ressourcer de cette manière-là et de d'autres manières. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut être capable de se reposer, même si tout n'est pas terminé. Si votre exigence pour pouvoir vous reposer, c'est que tout soit à jour, vous n'allez jamais vous reposer. Parce qu'un gestionnaire, c'est très... Moi, j'en ai pas vu des gestionnaires dans ma vie qui parlent du travail puis tout est réglé. Fait qu'il faut tout de suite se mettre ça dans la tête puis être capable de se reposer malgré qu'il reste des choses, se détendre malgré qu'il y a encore des problèmes qui ne sont pas résolus.
Julie et Hugues, je ne vous demanderai pas si parfois vous êtes en pied de bas ou en pantoufle, ça vous appartient. Mais est-ce que vous avez des trucs pour décrocher? Justement, si je vous dis cette phrase de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, qu'est-ce que ça résonne en vous?
Ah, moi, ça résonne énormément. Moi, je trouve que ça, c'est un essentiel. Peu importe le métier qu'on fait, qu'on soit gestionnaire ou non, c'est prendre soin de soi, on est notre propre outil d'intervention. Donc, si on va être en état de ressources, il faut la soigner, cette personne-là, ensuite, pour être capable de travailler avec les autres. Moi, mon facteur de protection qui me permet là, justement de maintenir ce niveau d'énergie-là, d'engagement, moi, c'est le sport, c'est le plein air, c'est la nature. Donc, quand je sens une semaine où j'ai moins bougé, où j'ai moins connecté avec la nature, je le sens. Là. Fait que ça ne peut pas quitter ma vie. Là, pour vraiment, je prenne soin de ça. Puis, je me suis donné un environnement aussi là, où j'habite là, dans les cantons de l'Est pour avoir ça. Fait que ça, pour moi, c'est mon facteur de protection. Et les amis aussi, la famille, donc de se ressourcer avec des gens qu'on aime, qui nous font du bien et qui nous ramènent. Hein. Tu sais, sur le plancher des vaches, on n'a pas à jouer le... Tu sais, je me dis, on a une posture comme gestionnaire, part, on joue un rôle, mais quand on revient auprès de nos amis, auprès de notre famille, ben moi, je trouve que c'est ça aussi, c'est comme ça que je me reconnecte avec qui je suis. Puis, vous le nommiez, hein, de l'ouvrage, il y en a tout le temps. Quand on aime être performant ou perfectionniste, hein, deux petits ennemis, des fois, là, pour l'équilibre, ben, il faut apprendre le lâcher prise. Ça aussi, moi, c'est des fois d'apprendre à tourner les coins ronds, puis de se dire, ben, c'est ça le mieux que je puisse faire avec, là, les ressources que j'ai, puis tout ce que je dois faire, là, tu sais, comme ouvrage actuellement. Donc, ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est pas toujours facile, mais des fois, de se le nommer entre collègues aussi, puis de dire, ben, ça va être ça, puis c'est correct, là, tu sais.
Je vous vois, Hugues, approuver avec un signe de tête. Je suis en train de me demander s'il y a une différence entre les hommes et les femmes, même, à cette idée.
Bien, je trouve ça intéressant, puis Julie l'a mentionné tout à l'heure, puis elle vient de re-mentionner là, l'équilibre. C'est ce qui me venait en tête quand j'écoutais Mme Charest parler. Là. Et pour moi aussi, c'est le sport. Si c'est mon vélo, si j'ai pas mon vélo, ça paraît dans ma semaine. Et c'est une pratique où je ne peux pas amener le travail. Donc, je suis sur ma piste cyclable, puis avec moi-même, un peu comme pas de souliers dans un bureau. Là. Donc, j'ai besoin de ces moments-là et ça fait la différence. Mais on parle, puis j'aime bien la façon que Julie l'a mentionné aussi à propos d'accepter les résultats. On n'a pas le choix de faire avec les ressources en place et le temps alloué aussi. Là. On a vécu, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là, dans l'offensive construction. C'est pas tout le monde qui est impacté par ça. Mais dans les centres professionnels, ça nous a demandé énormément d'efforts cette année. Et que c'est clair que ce qu'on avait déjà prévu en début d'année, on n'a pas atteint les objectifs. Et on a une raison pour ça. Et que se contenter puis être capable de dire, ben, ça ira de l'an prochain.
La flexibilité, c'est quelque chose qui va non seulement vous rendre plus efficace, mais vous rendre service quand vous avez des difficultés, quand vous avez, parce que la difficulté peut venir de l'extérieur, mais ça pourrait être parce que vous êtes moins en forme. Donc, d'être capable de flexibilité, puis d'oser dire à notre monde, écoutez, j'avais dit qu'on ferait ça comme ça, je me suis trompée, ou j'avais mis un objectif trop haut. Moi, comme gestionnaire, là, ce genre de choses-là, je leur ai toujours dit, je me donne le droit de changer d'idée. Je ne vais pas continuer dans la même direction juste pour démontrer que j'avais raison quand j'ai pris la décision. S'il arrive d'autres choses, je vais être flexible, puis on va être flexible ensemble. Fait que ça leur donne le droit aussi. Je pense que ça, c'est la méthode gagnante.
Si la difficulté perdure, s'étale sur une longue durée, on ne pourra pas prendre 6 mois de congé.
Ben, ça dépend quelle sorte de difficulté que c'est. Mais oui, on ne va pas être en congé tout le temps qu'on a des difficultés parce qu'on serait, vous savez, on serait souvent en congé là, parce que là, on a avoir un bébé. On dit ça, c'est un bel exemple. Ensuite, un enfant malade, un ado qui ne veut plus aller à l'école, un chum, une blonde qui veut nous quitter, des parents malades, des difficultés financières, ça arrive, là, tu sais, il n'y a pas... la vie, c'est ça, là. Il y a des fluctuations comme ça. On ne pourra pas toujours être en congé. Mais on peut être capable de se dire, je m'en vais, me concentrer sur autre chose autant que possible. Ce qu'on doit protéger, selon moi, c'est de nuire à notre équipe. Si on voit, par exemple, qu'on fait trop d'erreurs, si on voit, ça c'est un thème qu'on n'a pas abordé encore, mais si on voit qu'on a en bon québécois la mèche courte, parce que des fois quand on a des difficultés personnelles, on n'est pas juste triste, là. Des fois on est irritable, puis ça ne nous en pas, et que là on va nuire à nos relations interpersonnelles, ben là il faut réaménager quelque chose. Mais aussi d'avoir, si on est là longtemps avec quelque chose qui perdure, il faut vraiment avoir quelqu'un qui nous aide aussi à prendre les bonnes décisions par rapport au travail.
Julie et Hugues?
Ben moi, je pense qu'il faut se donner le droit de ralentir à certains moments. Des éléments clés comme ça de la vie, il faut se donner le droit de les vivre. Sinon, on ne veut pas vivre avec des regrets non plus. Donc, se donner droit de ralentir, aller chercher de l'aide pour soi, au besoin, revoir ses priorités, faire appel à son supérieur immédiat pour peut-être réaménager nos tâches, nos responsabilités. Parce qu'effectivement, le congé, l'arrêt de travail, ce n'est pas toujours une solution. Pour certains, même, de continuer d'être au travail, ça fait en sorte que la vie continue. Oui, c'est infiniment triste là, d'apprendre là, un diagnostic de cancer, tout ça, mais on a chacun nos façons, c'est ça, de faire face à ces difficultés-là. Fait que pour certains, c'est pas jugé, mais il y en a que de continuer de venir au travail, d'avancer, ça va être plus facile, peut-être après ça, de c'est des fois comme de séparer un peu là, les rôles, mon rôle de fille puis mon rôle de gestionnaire. Fait quand je suis gestionnaire, je me consacre au travail puis ça me permet, je veux dire, la vie va continuer. Puis quand je me consacre à mon rôle de fille, j'y suis aussi. Mais c'est assurément, il y a des moments où il faut se donner le droit. Moi, je me dis tout le temps, se donner le droit de ralentir, est-ce qu'on se le permet ça? Je pense pas tant que ça. Des fois, on est peut-être mieux de se donner un temps d'arrêt. Tu sais, moi, je suis entre le stimuli puis la réaction pour peut-être prendre une décision plus éclairée que d'être toujours en action-réaction. Là.
Je rajouterais très peu à ce que Julie vient de dire et Mme Charest, mais en tenir compte de la difficulté qu'on vit. Donc, la mèche courte, le stress élevé, être moins patient, c'est le genre de choses qui peut ne pas être souhaitable dans un rôle de gestionnaire. Donc, si on sait qu'on a des sujets à aborder, bien, c'est s'assurer d'être en état pour aller aborder certains sujets ou avoir certaines rencontres courageuses. On sait que comme gestionnaire aussi, quand on s'absente souvent, les choses s'accumulent, donc ça peut pas être souhaitable non plus. Puis je suis d'accord, ce que Julie disait tout à l'heure là, c'est que on peut aussi utiliser ce temps-là justement pour dire ben là je fais ça là tantôt, après l'ouvrage là, je vais me donner du temps pour le vivre rendu à ce moment-là, je vais me donner du temps pour le vivre. Et que ça peut être une façon de vivre des difficultés puis de continuer à accumuler l'emploi. Là.
Puis, il ne faut quand même pas oublier que des grosses épreuves comme ça, ça nous réduit à l'impuissance. Hein? Si votre mère a un cancer, elle en a pour 2 mois à vivre, vous avez vraiment un sentiment d'impuissance. Alors, d'aller au travail, puis de sentir que vous avez un certain pouvoir sur certaines choses, c'est thérapeutique en soi, ça fait du bien. Moi, où je tracerais la ligne, c'est si je vais au travail et pendant que j'y suis, je suis pas capable de jouer suffisamment mon rôle et que je suis en train de brûler ma réputation, je suis en train de brûler les autres autour de moi, là, je tracerai la ligne pour s'arrêter ou se retirer. Mais pour moi, et je l'ai assez vu comme psychologue clinicienne, là, les arrêts de travail, il faut faire attention parce que c'est pas toujours la bonne réponse parce que un stress à revenir après. Puis il peut même y avoir un stress pendant, parce que la personne n'est pas nécessairement organisée pour ne rien faire. C'est pas dans sa mentalité. Fait qu'il faut vraiment une bonne réflexion pour choisir quelle est la meilleure chose à faire, compte tenu du contexte. Et pas se sentir obligé de prendre une décision pour toujours. Dire, ben là, je vais voir. Je vais, tu sais, pour le moment, je pense que c'est mieux comme ça. Puis s'il faut que j'arrête éventuellement, ben j'arrêterai.
Et de là, l'idée d'avoir un réseau fiable, tant personnel que professionnel, d'être en mesure de déléguer à des gens de confiance selon les forces et les habiletés de chacun dans une équipe. Et ça ira peut-être plus, je dirais, mieux ou facilement pour passer à travers une difficulté et de prendre du temps pour soi, advenant le cas qu'on doit se retirer.
On a 3 sortes d'appui dont on a absolument besoin. Soi-même, prendre soin de soi tout le temps, là, pas juste attendre que ça aille mal. Quelqu'un dans notre vie personnelle, un ami, un conjoint, mais avoir quelqu'un dans cette vie personnelle et quelqu'un dans notre vie professionnelle. Il faut savoir à l'avance quelles seraient les personnes sur qui je pourrais compter s'il m'arrivait quelque chose ou si je ne me sentais pas bien.
Nos repères,
effectivement.
Madame Charest, Julie, Hugues, que vous enleviez vos chaussures en entrant au bureau, que vous connectiez avec la nature, que vous fassiez du vélo sur la piste cyclable pendant des heures, j'espère que tous les gens qui sont à l'écoute vont réussir à trouver la stabilité dans les moments plus difficiles. La lumière, le point positif, parce que la vie est faite de haut et de bas au quotidien. On doit y faire face et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Alors, vaut mieux trouver nos repères, à quel endroit et avec qui on se sent bien. C'est ce que je vous souhaite, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des idées d'invités, de thématiques, de sujets qu'on pourrait aborder au cours de la prochaine saison, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez via le www.aqcs.ca et vous pouvez écouter, réécouter comme bon vous semble tous les épisodes qui sont à votre disposition, les balados qu'on enregistre déjà depuis plus de 2 ans. Au plaisir, on se retrouve bientôt. L'AQCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise, pour leur soutien dans la production de la série Balada QCS.